Sheila Irambona à la présentation et François Kimana à la cabine technique. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition dont voici les grands titres. 111 personnes restent incarcérées dans la prison centrale de Mimba, alors que parmi elles, il y a celles qui ont été acquittées depuis 2014, selon l'Organisation de défense des droits des prisonniers, Nabaliza, qui réclame à ce que ces personnes soient libérées. Et les travaux de construction des berges de la rivière Gassigny ont été stoppés depuis un an. Les riverains des quartiers Gatumburu et Garahé de la zone Ruwilidi expriment leur inquiétude face à cette situation. Surtout que nous approchons la saison pluvieuse et demandent à ce que ces travaux soient achevés. Pénurie d'eau dans différents quartiers du chef-lieu de la commune Ngodi. Certains habitants de ces localités indiquent qu'ils viennent de passer 3 mois, voire plus, dans cette situation et ils demandent l'intervention de la régie des eaux. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Encore une fois, bienvenue chers auditeurs. Les habitants des quartiers Gatunguru et Garahé dans la zone Ruwilidi de la province de Bujumbura, située aux abords de la rivière Gassigny, demandent l'achèvement des travaux de construction des berges de cette rivière. Ces travaux ont été suspendus il y a un an. Certains citoyens interrogés par la radio-télévision Isanganiro expriment leur inquiétude. Floribert Ndeissaba, l'un des élus locaux du quartier Garahé, indique que le problème a été signalé aux autorités supérieures. Le point avec Vianney Gendakoman.
Ces habitants qui vivent dans le quartier Gatunguru, Gahahe, situé dans la zone Rubirizi, province de Bujumbura, expriment qu'ils vivent dans l'inquiétude face à l'arrêt des travaux de la canalisation et de la construction de la rivière Gassigny. Cette rivière qui traverse leur quartier représente un réel danger, surtout à l'approche de la saison pluvieuse. Selon les témoignages recueillis sur place, les travaux avaient été entamé par l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, mais ils ont été interrompus depuis plusieurs mois sans explication claire ni suite concrète. Les riverains redoutent que les pluies attendues dans les prochaines semaines ne provoquent des inondations dévastatrices comme cela s'est déjà produit dans le passé. Plusieurs maisons sont construites à proximité immédiate de la rivière et pourraient être emportées par les eaux en cas de la forte pluie. Certains habitants évoquent même la possibilité d'évacuer s'il y est entrepris rapidement pour sécuriser les berges de cette rivière.
La situation est extrêmement préoccupante. Le sol est très instable et au fur et à mesure que l'on progresse, on constate qu'il s'effondre facilement. Conséquence directe des travaux de réhabilitation inachevés de la rivière Gassigny. Même les fondations de nos maisons pourraient céder à tout instant si aucune mesure urgente n'est prise.
Face à cette situation, il lance un appel vibrant aux autorités compétentes, notamment au gouvernement burundais, afin qu'ils interviennent en urgence pour relancer les travaux de protection des berges de la rivière Gassigny. Il appelle que ces travaux sont essentiels non seulement pour protéger les habitations, mais aussi pour préserver les infrastructures publiques comme les routes, les écoles et les centres de santé situés non-loin de cette rivière. De son côté, Floribert Ndeissaba, un des responsables administratifs du quartier Gahahe, confirme que le Buha avait bel et bien promis de finaliser les travaux avant le début de la saison pluvieuse. Cependant, il regrette que ces engagements n'ont pas été tenus et qu'ils n'ont pas laissé aucune explication formelle sur les raisons de l'arrêt des activités.
La question est sérieuse et demeure non résolue jusqu'à ce jour. Un ingénieur en charge de la gestion de la rivière nous a expliqué qu'il restait encore des travaux à réaliser pour prévenir les risques de débordement. Il a également assuré que des mesures concrètes allaient être prises prochainement afin de finaliser les travaux de réhabilitation de cette rivière.
Il précise que cela fait maintenant plus d'une année que les travaux ont été suspendus exactement depuis qu'ils avaient atteint le deuxième marché du quartier Gatunguru.
Je vous l'avais dit en titre, 111 prisonniers restent encore incarcérés à la prison centrale de Mimba, alors que parmi eux, il y a ceux qui ont été acquittés depuis 2014. Propos du président de l'Organisation de défense des droits des prisonniers, Navalidza, lors d'une conférence de presse animée, c'était ce mercredi. Jean-Marie Chimilimana appelle les procureurs à libérer ces prisonniers. Il invite également les élus récemment choisis par la population à visiter les prisons afin de mieux comprendre les questions à poser au ministre de la Justice lors des questions orales. Suivez-le.
Concernant les prisonniers injustement maintenus en détention à la prison centrale d'Omimba, plus de 100 prisonniers demeurent incarcérés alors qu'ils ont été légalement acquittés ou libérés par les décisions des cours et tribunaux. Nous connaissons très bien ces cas. Il est regrettable qu'un magistrat ou une instance judiciaire supérieure puisse ordonner la libération d'un détenu et que celui-ci ne soit pas exécuté simplement parce qu'un procureur qui, rappelons-le, est injustifiable et comme tout autre, refuse d'accepter la décision. Si un procès est perdu, il convient d'en accepter l'issue. C'est pourquoi nous réconfortons les personnes encore injustement détenues et appelons les procureurs à faire preuve de retenue et de respect des décisions judiciaires en procédant à leur libération, étant donné que parmi ces prisonniers, certains sont malades. La libération des personnes ne serait pas seulement un acte de justice, mais aussi un gain pour le pays en termes de main-d'œuvre et de contribution à la production nationale. Nous interpellons également les élus du peuple, dont les députés et sénateurs, afin qu'ils usent de leur mandat pour demander des comptes au procureur général, car les prisonniers sont aussi des citoyens qu'ils représentent. Nous demandons à ces parlementaires, après avoir entendu notre appel, d'organiser des visites dans les établissements pénitentiaires pour mieux cerner la réalité et poser les bonnes questions au procureur général de la République et au ministre de la Justice. Nous adressons une correspondance très bientôt au Parlement et au Sénat dans laquelle nous transmettrons les noms de ces prisonniers. Cette liste sera également envoyée au Premier ministre afin de démontrer que nos déclarations s'appuient sur des faits réels et vérifiables et que les relèvent de qu'une exagération.
Jean-Marie Chimimana a été traduit en français par notre confrère Jérôme Hakidimana. Les notables culinaires sont appelés à favoriser la réconciliation entre les personnes en conflit, comme le précise l'article du règlement qui les régit. C'est ce qu'a déclaré Maître Emmanuel Bourakouvier lors d'un entretien accordé à Isanganiro. C'était ce mercredi. En réaction aux plaintes de ceux qui estiment que les notables culinaires empiètent sur les prérogatives de la justice en rendant des décisions alors que la loi ne leur en donne pas, selon Bourakouvier, ces notables se sont écartés de leur mission première qui est d'amener les parties à s'entendre à l'amiable. Suivez-le.
La loi les a appelés les notables collinaires ou les notables de quartier, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas dans la structure normale des cours et tribunaux. La constitution de la République du Burundi, à travers l'article 210, prévoit que la justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République du Burundi et au nom du peuple burundi. Donc, dans cette structure judiciaire, les notables collinaires ne font pas partie de cette structure. Voilà pourquoi ils sont appelés des notables. Alors, en tant que notables, quel est leur rôle? Donc, de par l'article 5 de la loi qui les régit, les missions qui leur sont assignées sont de deux ordres. Premièrement, recevoir les plaintes des parties en litige et donner des avis sur toutes les affaires. Donner un avis ne veut pas dire trancher. Deuxièmement, procéder à la conciliation des parties en conflit. Procéder à la conciliation et essayer d'amener les parties au litige à trouver une solution consensuelle qui n'est pas nécessairement de l'ordre judiciaire. Voilà leur rôle. Donc, ils ne sont pas habilités à trancher, mais malheureusement, nous assistons à des décisions qui se présentent, que ce soit dans la forme, que ce soit dans le fond, comme si ce sont des jugements, alors qu'ils ne sont pas habilités à prononcer des jugements. Je peux donner un exemple. Donc, les parties qui plaident sur le partage de la succession, et voilà, les notables collinaires décident, voilà, donc nous décidons que vous allez partager telle propriété. Ça relève de la justice en fait, ce n'est plus une conciliation. ou bien un époux en instance de divorce avec son épouse, comme ils doivent passer par les notables collinaires pour pouvoir enclencher la procédure, vous trouvez les notables qui tranchent en disant que voilà, nous décidons le divorce entre tel et tel. Donc ça, c'est une décision judiciaire. Donc en principe, qu'est-ce qui devrait être fait? Ça veut dire que si ils trouvent que les parties sont loin de s'entendre sur leur litige, eh bien, ils donnent un avis sur le litige. Voilà, ils précisent que les parties ne se sont pas entendues sur une solution et puis ils donnent un avis de ce que pourrait être la solution pour ce litige et ils donnent un PV à toutes les parties et la partie la plus dirigeante saisit le tribunal de résidence. C'est comme ça que ça devrait fonctionner.
Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel.
Pénurie d'eau dans différents quartiers du chef-lieu de la commune Ngodi. Certains ménages déplorent qu'ils viennent de passer 3 mois, voire plus, sans aucune goutte d'eau. Ces habitants disent ne pas comprendre cette pénurie qui perdure alors que la société Sogeas Atom a construit des châteaux d'eau au marais de la Nyakijima pour alimenter cette ville de Ngodi. La population demande une solution à ce problème afin d'éviter des maladies liées au manque d'hygiène. Le point avec Apollinaire Muzagara.
Ces habitants de la ville d'Ongozi qui se lamentent disent qu'ils ont oublié depuis bien l'urette l'eau à la maison. Pourtant, il y en a qui en obtiennent pendant la nuit et se réveillent pour faire des réserves. Certains habitants fâchés commencent à penser même à des pots de vin pour avoir de l'eau à Ngozi. Les élèves vacanciers et travailleurs de la maison sillonnent différentes rues à la recherche de l'eau, mais ne sachant quoi faire, il y en a qui optent à aller puiser l'eau dans les marais entourant la ville d'Ongozi à 4 km voire plus sur de fortes pentes. Ceux qui en profitent actuellement sont les conducteurs de taxis vélo qui affirment gagner par jour 15 000 à 20 000 francs. Ils apportent un bidon d'eau de 20 litres à 1200 ou 1500 francs. Contactés pour en savoir plus, le chargé d'eau à la régie des Ongozi nous a renvoyé au chargé de la communication au niveau national. Pourtant, les informations proches de la régie des Ongozi font état de l'insuffisance du courant électrique pouvant faire monter l'eau du marais vers le château d'eau construit par la Sogeas Atom au chef-lieu de la commune Ngozi. La population de une solution avant qu'il ne soit tard, car parmi elles, il y en a qui disent avoir du pain sur la planche, à trouver de l'eau pour se laver ou faire la cuisine. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro.
L'absence d'une fonction publique communale et le manque de schéma directeur pour une gestion rationnelle de l'espace figurent parmi les défis majeurs de la décentralisation au Burundi. Cette situation a été mise en évidence, c'était ce mercredi, lors de la présentation d'une étude sur le découpage administratif, commandité par l'ONG Parole Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM. À cette occasion, certains acteurs politiques ont exprimé le souhait que des lois et textes clairs soient adoptés pour encadrer le fonctionnement des institutions mises en place. Le point avec Jean-Marie Mayonka.
Lors de la présentation des études sur la décentralisation financière et la transparence budgétaire commanditée par Parsem, le professeur Siriac Ndirorera a souligné qu'une volonté politique affirmée, un changement des habitudes et des comportements dans la gestion des affaires communales, ainsi qu'une meilleure efficacité et transparence des dépenses communales figurent parmi les conditions essentielles pour une décentralisation effective au Burundi. Cette réalité qui a été mise en lumière ce mercredi lors de la présentation de cette étude réalisée à l'initiative de Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM. Le professeur Siriac Ndirorera a insisté sur la nécessité de doter les communes de gestionnaires compétents, honnêtes et intègres. De son côté, le professeur Simeo Barumwete, qui a présenté l'étude sur le découpage administratif, enjeux et défis, a souligné que la bonne gestion des communes exige des ressources humaines qualifiées.
Pour y arriver, il ne suffit pas tout simplement de recouper ou de découper les territoires. Il faut aussi doter ces territoires à la fois des ressources humaines qualifiées, mais aussi des ressources financières. Parce que ce qui a manqué, depuis que la plupart des pays africains ont adopté la décentralisation, on a vu qu'on a transféré les compétences aux communes, mais sans transférer les moyens financiers. La question de la décentralisation, la question du développement local, c'est une question technique et n'a rien à voir avec la politisation de l'administration, n'a rien à voir avec la politique. Donc c'est un enjeu, c'est un défi.
Par ailleurs, certains acteurs politiques ont exprimé le souhait de voir des lois, des textes clairs adoptés afin de permettre aux organes mis en place de fonctionner efficacement.
Aujourd'hui, on a des institutions qui sont là sans qu'il y ait des textes qui légissent leur fonctionnement. Alors nous demandons au gouvernement de travailler effectivement à arrache-pied pour mettre en place ces textes et lois qui doivent aider le fonctionnement de ces organes.
Faustin Dikoumana, directeur exécutif d'OPARSEM, a expliqué que cette réunion avait pour objectif de sensibiliser les citoyens sur l'importance de cette réforme.
Parle, rassure-moi.
Des problèmes persistants sans qu'aucune solution ne soit apportée peuvent plonger les gens dans le désespoir. Ce manque de prise en charge peut entraîner de graves conséquences comme la dépression, voire même le suicide pour certains, comme l'explique le psychologue Alexis Nibigira. Il partage cette analyse avec les habitants de la colline Rukana dans la commune Cibitoke, province de Bujumbura. Ces derniers, confrontés notamment à un grave problème de pénurie d'eau, y voient même un signe d'abandon de la part des autorités, même si d'autres difficultés font aussi partie de leur quotidien. Le point avec Francine Diokoukayo.
La colline de Rukana compte plus de 6200 ménages répartis en 28 sous-collines, mais seules 4 d'entre elles ont accès à l'eau potable. Les habitants se disent découragés et ne comprennent pas pourquoi ce problème, pourtant bien connu, ne trouve toujours pas de solution.
Nous vivons près de la Rusizi. Quand la pluie tombe, c'est impensable de l'utiliser pour boire ou cuisiner, car elle est pire. On se demande si, dans cette localité, nous sommes des citoyens de ce pays comme les autres.
Imagine un bidon qui coûte 3000 francs. Je commence à me demander comment vais-je l'acheter alors que je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas commerçante, je ne fais rien. Tout ça me tourne dans la tête.
Au-delà du manque d'eau, la cherté de la vie vient encore compliquer leur quotidien, déjà difficile à supporter.
C'est la saison sèche et donc c'est le moment d'acheter des matériels scolaires. Beaucoup de mamans qui sont veuves sont désespérées. Elles se demandent ce qu'elles vont faire. Ces jours-ci, tu peux rencontrer une personne qui marmonne dans la rue en implorant le Seigneur.
Le trajet qui nous coûtait 1000 francs est aujourd'hui à 5000. On ne visite plus nos familles. Pour aller dans certaines provinces, il faut plus de 100 000 francs.
Les gens sont dans le désespoir et se demandent ce qui s'est passé pour que les prix sur le marché augmentent autant au vu des autorités du pays. Et car la population se lamente, rien n'est fait. Cela peut causer des forfaits.
Selon Alexis Niyibigida, spécialiste en comportement humain, les personnes confrontées à de telles épreuves ont tendance à adopter un langage de désespoir, ce qui peut parfois conduire à des comportements négatifs, voire dangereux.
Surtout, il est utilisé dans des situations de souffrance intense où la personne se sent dépassée, impuissante, et voire même quand elle est fait face à des situations sans issue. La personne qui utilise ce langage a besoin d'empathie et un accompagnement. Vous verrez que vraiment les gens peuvent même renforcer la détresse émotionnelle, la perte de motivation pour l'avenir, voire même le risque de dépression sévère. Il y en a même qui peuvent avoir des idées suicidaires, et sans oublier aussi les actes d'agression verbale ou de bagarre au niveau communautaire. S'il y a ce désespoir, il y a vraiment risque de rupture de liens sociaux. S'il y a un passé non traité et que cela engendre les messages de haine, les stéréotypes, les préjugés, et dire « je suis comme ça parce que il y a un auteur qui est là. Je ne parviens pas à satisfaire mes besoins parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'empêche ça. » Cela peut alors engendrer un esprit de vengeance, un esprit de haine.
Ce psychologue recommande de ne pas céder à ce genre de discours. À la place, il encourage les citoyens à dialoguer avec leurs dirigeants pour chercher ensemble des solutions durables et construire un avenir meilleur.
Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.